porter la couronne.
La liberté que nous voulons. L'émission de l'association pour une constituante.
Car ils pensent comme moi que rien ne vaut mieux ma foi qu'une qu'une république bien démocratique.
www.pouruneconstituante.fr.
Bonjour, Nathalie sur Radio Doc. Aujourd'hui, je m'engage sur un sujet non pas compliqué, mais complexe. Un mot qui revient de plus en plus souvent dans les discours, dans notre langage, ce mot, la démocratie. Avant, j'ai été voir dans le Petit Robert et sa définition n'est pas mal. Démocratie, forme de gouvernement dans laquelle la souveraineté appartient au peuple. État ainsi gouverné, être en démocratie, démocratie directe, où le peuple exerce directement sa souveraineté, démocratie participative, où le peuple participe à la concertation et aux décisions, démocratie représentative, où le peuple élit des représentants, démocratie chrétienne, inspirée par la morale sociale chrétienne et spécialement définie par la papauté, alors là de 1901-1967. Les démocraties populaires, régime à parti unique d'inspiration marxiste, supprimés pour la plupart en 1990. Bref, je retiens la définition la plus classique, celle qui me convient de la démocratie, comme gouvernement du peuple par le peuple. Elle indique bien qu'il ne peut y avoir démocratie sans participation des citoyens à la vie publique. Rendre la démocratie participative demande d'inventer alors de nouvelles pratiques et de nouvelles procédures permettant d'associer les citoyens de manière active à la fabrique de la décision publique. Je me demande si par opposition, la démocratie représentative ne laisserait finalement guère de place à la participation. Cela m'arrive comme ça parfois de prendre le chou avec des mots, mais bon. Si le rôle du citoyen se limite aujourd'hui à élire ses dirigeants, ce serait alors à eux seuls que reviendrait la tâche et le droit de faire de la politique? La politique telle qu'elle est aujourd'hui est une affaire de professionnels. On l'entend fréquemment, la professionnalisation des politiques au travers de leurs partis. La démocratie, c'est voter. L'acte même de voter s'inscrit dans un contexte institutionnel et culturel qui lui donne un sens collectif et public. Les travaux d'historiens, de sociologues, du politique ont ainsi montré que l'instauration du suffrage universel fut un formidable vecteur, non pas seulement de contrôle du pouvoir politique, mais aussi de la socialisation politique du peuple, d'éducation citoyenne, amenant un nombre croissant de citoyens à prendre part à la vie publique. Ah, la Révolution française, on lui en doit beaucoup finalement. Allez, je vous laisse une petite pause musicale, hein. La manif d'Agnès Bille.
À la manif, on était tous un peu naïfs. On défilait sous la pluie pour changer la gueule de la vie. Ce jour-là, tout le monde y croyait. C'est là que je t'ai rencontré. Je dansais chez les anarchos, tu marchais pour les écolos. Je t'ai souri quand tu m'as dit que j'étais jolie dans mon treillis. Sous les drapeaux rouges et noirs, on attendait le grand soir. Il était encore à la bourre et bien sûr on l'attend toujours. À la manif, on était tous très positifs. On défilait sous la pluie pour changer la gueule du pays. Ce jour-là tout le monde en rêvait. C'est là que tu m'as regardé. Tu chantais faux, c'était magique. Il y avait toutes les musiques. Il fallait bien faire quelque chose avant que la planète explose. On n'allait pas se laisser faire. Au bout de quatre ou cinq bières, on se prenait main dans la main pour Louise Michel et Jean Moulin. À la manif, on était tous très objectifs. On défilait sous la pluie pour changer la gueule de la ville. Ce jour-là, tout le monde espérait. C'est là que tu m'as embrassé. Sur la même longueur d'onde, on a voulu refaire le monde. Il suffisait d'être amoureux, juste y croire encore un petit peu. Dans la fumée des merguez, on n'était pas très à l'aise. C'est pas le top pour dire je t'aime, alors on se l'est dit quand même. À la manif, on était tous hyper actifs. On défilait sous la pluie pour changer la gueule du pays. Ce jour-là, tout le monde en voulait. C'est là que tu m'as réchauffé. Avec leur merde nucléaire et leur saloperie de charter, avec leur fric et leurs finances, ces compéteux d'incompétence, ils nous ont promis la lune. Et comme c'était pour des prunes, on s'est fait baiser comme toujours, sauf que toi, tu m'as fait l'amour. À la manif, on était tous un peu naïfs. On défilait sous la pluie pour changer la gueule de la vie. Ce jour-là, tout le monde y croyait. C'est là que tout est arrivé. À la manif, on était tous très positifs. On défilait sous la pluie pour changer la gueule de la vie. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est comme ça qu'on s'est plus quittés.
À la manif, oui, on veut échanger la gueule de la vie. Merci Agnès. La démocratie participative repose-t-elle sur l'idée que la démocratie doit également permettre aux citoyens de participer à titre individuel à l'élaboration de décisions politiques ? Le recours accru à la co-construction des politiques publiques faisait partie des promesses de campagne de candidat Emmanuel Macron. Il faut bien dire que les deux mandats du président auront été marqués par des initiatives inédites d'ouverture de nouveaux espaces de dialogue entre représentants élus et citoyens. Mais cela débouchera, hélas, sur désillusions et déceptions pour les citoyens, car on ne respectera pas leurs propositions. Mais je précise que cela aura été quand même constructif dans les textes. Pour justifier mes propos, j'ai repris quelques lois co-construites, notamment la première, la loi Egalim, adoptée le 2 juillet 2018. Ok, ce fut d'abord des états généraux de l'alimentation. Consultation de tous les acteurs, producteurs, transformateurs, distributeurs, consommateurs. Un gros travail sur 3 mois et une consultation publique. La loi vise l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole, concertation entre agriculteurs et grande distribution et permettre aux agriculteurs d'avoir un revenu digne. Améliorer les conditions sanitaires et environnementales de production, interdiction des néonicotinoïdes, vous m'avez compris, protection des riverains à proximité des zones à traitement phyto, vous m'avez encore compris, renforcer le bien-être animal, réduire l'utilisation du plastique dans le domaine alimentaire. Aller vers une alimentation saine et durable. Bien décevante cette loi Egalim, manipulable par des lobbies et cependant nécessaire pour la santé de tous et pour notre environnement. Alors je continue, car avait été mis en place suite à la circulaire du 22 décembre 2017, donc un petit peu avant quand même, et selon les termes du président Macron, de remettre la République au cœur des quartiers et ramener le droit commun afin que ceux qui y vivent bénéficient des mêmes droits et services qu'ailleurs. favoriser l'émancipation des habitants, A, la mobilité et l'insertion par l'éducation et l'emploi. Le plan de mobilisation nationale en faveur des quartiers prioritaires et de leurs habitants reposait alors sur la co-construction locale, par l'association à nouveau d'élus, de conseils citoyens déjà mis en place un petit peu avant, de signatures des contrats de ville, adultes relais, services publics de proximité, des établissements scolaires, la caisse d'allocation familiale, Pôle emploi avec leur mission locale, les partenaires sociaux, les maisons de quartier, les associations et même les entreprises signataires de la charte entreprises et quartiers. Établissements d'enseignement supérieur, bref, une mobilisation des forces vives des territoires pour la politique de la ville. Et Moissac en a fait partie. Grand projet qui faisait suite quand même à la loi de Jean-Louis Borloo en 2005, avec son projet du vivre ensemble, vivre en grand la République, pour une réconciliation nationale. Moi, je les trouve assez pompants quand même, leur titre. Hein. Peut-être la plus efficace, quoique cette loi met en œuvre le plan de développement des services à la personne qui visait à créer dans le secteur 500 000 emplois sur 3 ans. Elle touche différents secteurs, donc des enfants, la petite enfance, les personnes âgées, les personnes dépendantes ou handicapées, avec la réduction des coûts et des prix pour l'aide à la personne. Beau projet! Simplification de l'accès aux services pour les particuliers et une professionnalisation du secteur garantissant la qualité des services et des soins à tous ses citoyens. Puis, la création d'un chèque emploi-service universel. Oui, la loi Borloo était un petit peu, touchait un petit peu plus la question financière, subvention et tout ça, que celle qui est arrivée en 2018. D'ailleurs, diverses dispositions sont intégrées à la loi et présenté comme devant favoriser la cohésion sociale. Je n'ai pas repris la définition, mais le petit Robert en a une aussi. Je verrai plus tard, mais la cohésion sociale, c'est à partir de ce moment-là avec Jean-Louis Borloo que nous en avons entendu vraiment parler. Il y a eu aussi quelques reculs avec Monsieur Borloo quand même, comme celle d'assouplir les normes de décence imposées aux logements locatifs. Eh oui, comme d'abaisser les mètres carrés dans les chambres étudiantes, par exemple, ou celles louées aux apprentis. Elles sont passées de 9 mètres carrés à 7 mètres carrés. Mais vous savez, la vie étudiante, hein, elle doit être formatrice. Hein. C'est là qu'on apprend à vivre, n'est-ce pas? Je ne reviens pas sur les subventions et autres magouilles financières, d'ailleurs, qui auront permis quand même aux grosses structures des EHPAD et de ces gros groupes de faire de nos personnes âgées et de leurs familles des vaches à lait. Je continue avec cette co-construction. À l'automne 2021, à l'occasion d'un déplacement à Marseille, le président Macron a remis l'accent sur ces sujets. Plan Marseille en grand. Mais en mettant l'accent sur les enjeux de sécurité face à l'urgence. On le voit aujourd'hui, en 2023. Que ce n'est pas gagné. Le deal a bien fait sa place dans certains quartiers, devenus aujourd'hui des zones de non-droit. Alors je continue. Je continue, figurez-vous, et là on s'en souvient tous, du grand débat national qui avait été lancé en janvier 2019 pour répondre au mouvement des Gilets jaunes et désigné par le gouvernement comme « outil consultatif de sortie de crise » avec quatre grands thèmes. Transition écologique, fiscalité, démocratie et citoyenneté. Organisation de l'État et des services publics. Cependant, l'une des revendications des Gilets jaunes était le référendum d'initiative citoyenne, le RIC, dont on parle sans arrêt, mais toujours pas appliqué, hein, qui portait l'ambition d'une co-construction des politiques publiques. Ah, ce grand débat organisé dans toute la France a donné lieu à des contributions libres, à des conférences nationales thématiques, ainsi que des conférences citoyennes régionales. Mais le résultat sur les propositions citoyennes ont fait défaut. et l'accès au cahier de doléances a été quasi impossible. Et j'en avais parlé lors de ma chronique précédente. Alors, pour continuer dans la co-construction, la grande démocratie participative, il y a eu la Convention citoyenne pour le climat, créée à l'issue de ce grand débat et composée donc de 150 citoyens tirés au sort, dont les travaux ont pris place d'octobre 2019 à juin 2020. Des propositions associant transformation du modèle de société autour de la transformation écologique et de la justice sociale. À l'issue de ces travaux, le président de la République, qui s'était engagé à adopter ces propositions, soi-disant sans filtre, ce fut son propos, hein, Poupa est d'accord avec moi, eh bien voici les résultats. Seules 15 propositions ont été retenues sur 149. Le projet de loi devenu Loi Climat et Résilience du 22 août 2021 a été fortement combattu par nombre de députés de l'opposition, d'ONG, de citoyens, au motif qu'il ne reprenait pas l'ambition même des citoyens. Cet épisode illustre l'importance d'une interaction à chaque étape du processus de construction ou de co-construction d'une loi entre le travail citoyen et le travail institutionnel dans son ensemble. Quand je dis dans son ensemble, c'est administration, gouvernement, parlement, collectivité locale. Chers auditeurs, cependant, ne désespérons pas. Nombre de citoyens s'engagent aujourd'hui en association, en collectif, dans des fermes écologiques, sur des ZAD. Nombre ouvrent des débats et sensibilisent à de nouveaux savoir-faire ou font des constats qui doivent nous rendre tous des citoyens, acteurs, éco-responsables et militants pour s'imposer, reprendre sa place au sein des décisions du peuple. Alors, avant de vous quitter, je vous laisse réfléchir à cette question. Pensez-vous qu'il serait nécessaire de mieux associer les citoyens aux décisions de politique publique? Mais je voulais aussi revenir quand même sur une action citoyenne qui s'est passée et à Montauban et à Moissac. Elle a été conduite donc dans le Tarn et le Tarn-et-Garonne par un agriculteur, Bernard Guigne. Et je lui tire mon chapeau aussi. Ancien arboriculteur conventionnel dans le Tarn, pendant 28 ans, il a développé bien sûr un cancer, car il a utilisé tous les produits phytosanitaires et même les plus graves. Aujourd'hui, il remet en cause ses anciennes pratiques. Il a réalisé plusieurs interventions au cours de ciné-débats avec le film « Secret toxique ». Il regrette d'y avoir rencontré peu d'agriculteurs conventionnels pour venir justement débattre sur le sujet. Il y a eu donc deux ciné-débats, l'un à Montauban, qui a rassemblé quand même 90 personnes, et celui de Moissac, figure-toi Poupa, avec 110 personnes, au cinéma Concorde de Moissac. Voilà. Aujourd'hui, c'est une chronique spéciale Agnès Bille, parce qu'on va continuer avec elle. Et aussi, je tire mon chapeau à Agnès Bille, et puis avec la chanson « Ça va Manu ». Merci, à la semaine prochaine.
Et une gare, c'est un lieu où on croise. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien.
Et Manu, rentre chez toi, t'es trop plein d'arrogance. Et pour un chef d'État, tu frôles l'indécence. Si tes petits copains déboursaient leurs impôts, au lieu de se planquer dans leurs paradis fiscaux, ça ferait des retraites pour les retraités. Je sais, tu trouves ça bête, mais bon, ça peut aider. Au Manu d'émission, là y'a saturation. Rien n'est bon dans le Macron, sauf pour les grands patrons. Monsieur le Président, s'il te plaît, va mourir. Monsieur le méprisant, tu mens comme tu respires. Les violences policières, non, ça n'existe pas. Puis d'ailleurs, Castaner, c'est la mère Teresa. Du coup, tu continues de te prendre pour un dieu quand tu nous pisses dessus. BFM dit qu'il pleut, allez, casse-toi, Manu. Cette fois, la coupe est pleine, on t'a tout ça, c'est vu. C'est la fin de ton règne. Arrête un peu Manu, tes grands airs à la con. Va traverser la rue, c'est la seule solution. Avec un peu de chance, ils embauchent au McDo. Ça change de la finance et d'ailleurs pour info, tu verras que c'est marrant de ne même pas gagner le prix du carburant pour aller travailler. Allez Manu, ciao, tu manqueras à personne, sauf bien sûr Monsanto, Google et Amazon. Ciao, ciao, ciao. Manu, dans la vraie vie, y'a pas que des milliardaires. Du dimanche au samedi, y'a tous ceux qui galèrent, ceux qui n'ont pas de quoi faire bouillir la marmite, ceux pour qui les fins de mois commencent à peine le 8, tous ceux qui ont la dalle et qui osent se plaindre alors que les aides sociales coûtent un pognon de dingue. Allez Manu, va-t'en maintenant, c'est urgent. Dégage, fous le camp, il faut te dire comment. Allez Manu, casse-toi, casse-toi. Casse-toi!
Parce que c'est notre projet!